De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lidl Parizeau cabinet d'assurance Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires.
Alors, ce mardi 6 novembre, c'était les élections, les midterms, comme ils disent du côté des Américains, les élections mi-mandat. Et ça, sans être la vague bleue qui a été prédite nombre de fois par plusieurs observateurs, ça va être quand même dérangeant. Et pour en parler, on a notre analyste politique américain préféré avec nous, Hubert Vallée. Bonjour, Hubert.
Bonjour.
Alors, Hubert, effectivement, ce n'est pas ce qu'on attendait, mais ça risque de faire du tort à M. Trump, ça.
Oui, effectivement. Rappelons que les élections américaines ont toujours lieu à des dates très précises. Ça remonte à l'époque où les États-Unis étaient une puissance agricole, donc pas le dimanche. On a choisi le mardi, et toujours le mardi qui suit le premier jour de novembre. Il y avait moins de travaux agricoles, on pouvait encore circuler, donc c'est très fixe comme date. C'est un match nul mardi dernier.
À peu près, oui. Oui. Sauf qu'il y a quand même le pouvoir, si on veut, décisionnel, a quand même basculé du côté des démocrates pour ce qui est du Congrès.
C'est habituel. Les deux derniers présidents, M. Clinton, Barack Obama, ont perdu également les élections de mi-mandat. Ont dû négocier, puis après ça, ils ont été réélus. Donc, il a conservé le Sénat, ce qui est beaucoup parce que ça bloque toute motion de destitution ou toute action majeure des démocrates pour le renverser.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que si le passé est garant de l'avenir, on risque d'avoir M. Trump pour un autre mandat?
C'est pas exclure. Il veut se présenter. Et ensuite, il a manifestement pas perdu sa base électorale. Mmh. Et encore une fois, c'est pas un suffrage universel. Ce sont les grands électeurs. Il aurait pas remporté le Sénat si ça avait été proportionnel à la population. C'est 50 États, le Rhode Island a 2 sénateurs comme la Californie. Alors que c'est très différent pour les représentants.
Là, ce qu'on dit, c'est que cette majorité, bon, on parle de quoi, à peine une trentaine, je pense, de majorité du côté des démocrates, ça serait suffisant pour qu'il puisse avoir un œil plus critique et avoir surtout des pouvoirs de critique beaucoup plus grands, même voir des pouvoirs d'enquête sur le président pour
identifier. L'amorce de pouvoir d'enquête. Évidemment, les représentants qui sont élus à peine pour 2 ans, c'était souvent des gens qui étaient pas de basse classe, mais de classe moyenne. On disait que ça prend un mandat court. Il faut pas qu'ils s'incrustent en quelque sorte à Washington. Par contre, les sénateurs étaient plus des notables. Et d'ailleurs, au Sénat, c'est une étape importante si on veut devenir président. Il y a l'exemple de Kennedy. Donc, pour faire une histoire courte, c'est certain que M. Trump va devoir négocier pour le budget, pour l'amorce des commissions parlementaires qui peuvent lui faire mal, et également pour certaines lois. Par contre, la majorité démocrate n'est pas forte. Et c'est pas des blocs homogènes. Donc, premièrement, une promesse d'un bureau de poste fédéral, d'une base médicale fédérale de l'armée, il peut obtenir des votes démocrates à la Chambre des représentants.
Il y a, au lendemain, tout de suite, hier, mercredi, il a demandé la démission de Jeff Sessions, celui qui s'est impliqué, entre autres, dans la faillite, de son projet de réforme du système médical, du système d'assurance médicale. C'est déjà un signe.
Rappelons que c'était décidé depuis un mois. C'était juste d'attendre le lendemain d'élection pour confirmer. Oh, ça s'est fait dans les formes, mais c'est une mise à la porte. Rappelons qu'une autre faiblesse des démocrates, c'est qu'actuellement, ils n'ont pas de chef. On a sorti Barack Obama, qui a participé à la fin de la campagne, un peu malgré lui, qui a donné un bon coup de main. Il n'y a pas actuellement de leader crédible au Parti démocrate. Mmh. On parle de M. Biden, mais il va avoir 75 ans. Donc, c'est pas particulièrement le candidat prometteur. Donc, il y a une faiblesse du côté démocrate. Il n'y a pas d'opposant face à Trump pour l'instant.
Non, on surveillait beaucoup, je pense, du côté des démocrates, l'élection au Texas. Là,
Rupio.
Monsieur Rupio, l'ex-rockstar.
Oui.
Sur qui on fondait beaucoup d'espoir pour qu'il soit peut-être, qu'il se présente peut-être pour la présidence après avoir été gouverneur.
Donc, pour résumer, il est loin d'être KO, M. Trump. C'était un match nul, évidemment. Il a monté son épingle en disant que c'était un triomphe, mais il n'est pas faibli par rapport aux 2 années qui vont suivre avant l'élection présidentielle.
Avez-vous été surpris de voir un Barack Obama revenir?
Oui, je m'attendais pas à ce qu'il fasse une fin de campagne aussi assidue. Mmh. On l'a sorti. Manifestement, il était pas intéressé, mais il y avait personne d'autre, et il était le seul qui pouvait enflammer, notamment les jeunes.
Ben, c'est ce qu'il avait dit, hein, qu'il ne reviendrait pas.
Non, il aurait le droit, parce qu'un président n'a pas le droit de faire plus que deux mandats consécutifs, mais après une vacance de 4 ans, il peut revenir.
Ah oui.
Pour 2 autres mandats, c'est pas à vie.
Oh,
mais
ça,
il
n'a
pas le droit de faire un 3e mandat consécutif.
Okay.
En réalité,
il y a eu des exceptions à ça quand même aussi.
Mais Roosevelt, la loi n'était pas passée. Ça date de 1951. C'était un amendement constitutionnel. Puis Roosevelt avait fait 4 mandats. Il n'a pas terminé le 4e à cause de la maladie. Donc, il pourrait très bien. Mais personne ne veut revenir. C'est une tâche éprouvante. Ouais. Qui ont été pendant 8 ans. Ça a eu son homme.
Je sais pas. J'ai vu plusieurs de ses interventions. Puis... il mettait beaucoup de cœur. Il y a même beaucoup d'humour aussi, ce qui était surprenant. Ben pas surprenant. Il était fort sympathique. Les gens s'ennuyaient de lui. Là,
ça fait partie du personnage, c'est certain, de ses qualités, mais je pense pas qu'il revienne.
Alors la suite des choses?
La suite des choses, ça va être 2 ans d'une sorte de cohabitation. Évidemment, Trump va lancer beaucoup de projets, les démocrates vont en refuser certains. Il risque d'avoir des commissions parlementaires, parce qu'il y a des choses qui sont pas claires dans la carrière de M. Trump. Des faillites pour lesquelles les petits contributeurs ont payé.
Jusqu'à récemment, là.
Oui. Ensuite, une feuille d'impôt qui se garde bien de montrer, etc. Par contre, ça peut pas aller plus loin qu'un début de commission parlementaire, parce que c'est le Sénat qui tranche. Après ça, une étape définitive pour destituer le président.
Mais au Sénat, il n'y a pas des républicains modérés qui pourraient être tentés de donner une leçon à Trump par moment?
De moins en moins, ils ont été écartés par Trump. C'est une des conséquences de son élection. Personne s'y attendait. Les républicains modérés, entre guillemets, des professionnels de la politique se sont fait ridiculiser par Trump. Et actuellement, il n'y en a pas qui émergent qui pourraient faire un contrepoids à Trump.
Il y a un phénomène assez spécial et spectaculaire, parce que ça a fait le tour de la planète dès mercredi matin, assez rapidement. C'est l'élection de ce gouverneur du Colorado qui, en fait, est décédé pendant sa campagne.
Oui.
Puis, il a gagné quand même.
Donc, il va avoir l'élection forcément, parce que...
C'est l'élection, on parlait que les républicains devaient choisir quelqu'un d'autre.
Ils vont choisir un candidat, mais je pense que normalement, il doit se représenter, parce que il était malheureusement décédé. Rappelons que la note encourageante dans l'élection du côté démocrate, c'est qu'il y a eu quand même de jeunes candidates, notamment, qui ont été élues. Des femmes prometteuses, dynamiques, et issues de minorités pour lesquelles il n'était pas envisageable qu'elles puissent gagner une élection. Musulmane, etc.
Il y a même... est-ce que c'est un gouverneur ou un sénateur qui est ouvertement...
Gay, sans cacher, etc. C'est impensable avant. Donc, des couches sociales, des latinos, beaucoup plus qu'avant. Donc là-dessus, c'est encourageant. C'est beaucoup moins monolithique, beaucoup moins anglais, protestant, riche qu'avant. Il y a eu une variété de candidates qui ont été élues, notamment du côté des femmes.
Il y a la Floride qui a manqué le rendez-vous d'élire un premier gouverneur noir.
Oui, évidemment, c'est un État qui est décisif. La meilleure façon de connaître l'opinion des Américains en politique, comme dans d'autres domaines, c'est d'aller un samedi matin ou un dimanche déjeuner dans un restaurant populaire. Ça jase politique. Pas quelquefois. Les partis sont controversés, ça donne leur opinion, vous avez un pouls certain là-dessus. Et quand j'étais la dernière fois, les gens reprochaient à Hillary Clinton d'avoir levé le pied en 2016, autrement dit, de ne pas avoir fait une campagne à fond jusqu'au bout. Ce qui n'a pas été le cas à Trump. Il faut lui donner ça, il est très compatif. Par exemple, c'est pas pour rien qu'il était...
Il est continuellement en campagne, il n'a même pas arrêté après...
Oui, c'est pas pour rien qu'il était combatif, même enragé dans sa conférence de presse, manifestement épuisé. Il s'est couché à 2 heures, il faisait plusieurs meetings par soir dans des états clés. Et on reprochait à Hillary Clinton d'avoir pris la victoire comme pour acquise trop tôt et d'avoir levé le pied alors que lui avait été à fond à la fin et qu'il a remporté finalement ce qu'on appelle les états qui balancent.
Les États baromètres.
Oui, swing.
Si on veut.
Ouais. State, comme on l'appelle.
C'est ça. Elle a prêché par excès de confiance. Elle a pêché par excès de confiance.
On dit qu'elle préparait son discours de victoire plus que participer, alors que Trump, comme cette année, a fait un sprint final de manière très déterminée.
Ben, écoute, je pense pas qu'il y a personne sur la planète qui pensait que Trump passerait. Là.
Non. Même on pensait qu'il c'était un fantasme de milliardaire. On pensait qu'il allait s'effondrer rapidement aux primaires. Puis finalement, il a éliminé tout le monde l'un après l'autre.
C'est quand même. J'aimerais pas être du côté américain de ce temps-là. Je sais pas. Ils vivent dans une incertitude créée par ça et puis une division qui est palpable. Écoute, j'écoutais des entrevues par la suite, là, puis il y a des gens qui parlaient de. Ben, on va les battre là-dessus. Tu sais, les gens sont vraiment polarisés et s'affrontent. Et au lieu d'être unifiés, on avait l'impression que sous Obama, il y avait une unification de la façon de penser des gens. Il y avait une cohabitation qui était plus facile.
Évidemment, c'est le style de polémique de Trump qui cause souvent ce phénomène. Par contre, ce qui resterait aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs. C'est quand même séparation des pouvoirs. Il contrôle pas la Chambre des représentants. Il pourra pas tout passer au Sénat, malgré tout. Et il contrôle pas ni les médias, ni la Cour suprême, ni le pouvoir judiciaire.
Il y a un élément qui a joué beaucoup en fin de campagne et qui, à mon sens, absolument ridicule, là, mais c'est la fameuse caravane. Alors, on sait très bien de quoi est composée cette caravane-là. Ce sont pas des gens qui sont dangereux.
Ils sont 3000 à peine.
C'est ça, mais ils vont finir par arriver près des frontières. Est-ce que Trump, à ce moment-là, va décider de jouer le jeu et de faire en sorte, pour pas perdre la face, de s'attaquer à ces gens-là?
Il n'y a pas besoin d'envoyer des centaines d'hommes. Ils sont à peine 3000. Beaucoup de femmes, d'enfants épuisés là-dessus. C'est pas une menace pour un pays de 330 millions d'habitants.
Ça, tout le monde sait ça, mais est-ce qu'il va pas faire une mise en scène?
Il va faire un tri. C'est-à-dire dire, on en prend un certain nombre qualifié, on rejette le reste, etc. Donc, il va essayer d'adoucir un petit peu pour pas paraître odieux de manière frontale. Même assurer certains soins pour certains. Mais, de toute façon, il n'y a plus rien à gagner là-dessus. La campagne est terminée. Donc, évidemment, ce que son électorat beaucoup apprécie, disant Trump, il tient ses promesses. Il surveille les frontières. On devient une puissance forte, on est respecté, l'économie va bien, les jobs vont bien, donc on peut se fier à lui. Donc il fait la métamore avant, mais sur le coup, s'acharner sur 3000 personnes qui ont marché tout un continent, ce serait évidemment contre-productif.
C'est juste une preuve comme quoi il ment comme il respire, ça n'a pas d'allure.
De même qu'il serait contre-productif pour les démocrates de toujours faire des obstructions systématiques. Si Trump est plus ou moins respecté, la fonction présidentielle l'est. Donc, on n'aime pas qu'on s'attaque au président pour à droite, à gauche. Donc, les démocrates, s'ils pratiquent une opposition systématique, vont faire le jeu de Trump.
En tout cas, s'il y a une chose qui va demeurer, c'est que ça va faire le plaisir et le bonheur de tous les animateurs de talk show de fin de soirée et humoristes américains qui vont continuer de noter chaque tweet et chaque bourde.
Quoi qu'il y ait une certaine lassitude, parce que à force d'en faire, ça devient d'une telle monotonie, puis pour une profondeur, tweet, il contredit, tweet, finalement, c'est une très mauvaise communication. Parce que Trump, il a toujours aimé communiquer, il dit « j'ai besoin de personne pour me dire comment communiquer », et il communique de la très mauvaise façon, et de la façon qu'il a perdu les pédales vis-à-vis un journaliste, c'est mauvais.
Oui, cette semaine, allait dire qu'il n'y a pas d'affaire de CNN devrait avoir honte de donner du travail à ce gars-là, tellement il était mauvais.
Ça, c'est erreur majeure. On peut dire qu'il est épuisé et autres, mais c'est une très mauvaise communication, donc il faut pas qu'il en fasse trop. Un président doit avoir la parole précieuse et il doit pas intervenir à tout bout de champ. Et
sa base semble avoir le pardon facile.
Oui, semble-t-il.
Hubert, merci beaucoup à nouveau.
Ça m'a fait plaisir.
On va se reparler. Il y a aussi ce fameux centenaire la Première Guerre mondiale.
La DDR, c'est tout un événement qui va être commémoré en fin de semaine en Europe et à travers le monde. Première Guerre mondiale.
Même ici à Sorel, on va entendre 100 coups de cloche.
Eh oui. Rappelons qu'il y a plus de Québécois et de Canadiens qui sont morts dans la guerre 14-18 que dans la guerre 39-45.
Évidemment.
Donc, c'était quand même important dans un pays qui commençait à peine...
C'est parce que ça jouait beaucoup plus sur le terrain, là.
C'était la guerre de tranchées. Une guerre de tranchées qui était affreuse, une boucherie, avec évidemment le suicide de l'Europe, l'émergence de la puissance américaine sans aucune contrepartie, et en Russie, l'apparition évidemment d'un pays communiste.
Il y a un documentaire assez bien fait ça, qui tourne sur RDI ou qui va tourner sur RDI
qui est remarquable.
Cette semaine, qui fait entre autres la lumière sur un fait assez étonnant à mon sens, c'est que l'Allemagne, qui a perdu, s'est quand même retrouvée presque triomphante là-dedans, de la façon que c'est relevé.
Mais évidemment, l'Allemagne ne pouvait plus résister. Quand les Américains sont rentrés en guerre, la balance était inversée. Avec l'Empire britannique, la France et à l'arrivée des États-Unis, avec un matériel considérable. Et quand même une armée qui était novice, mais quand même forte. Et finalement, les Allemands avaient l'impression, étant donné qu'ils sont toujours battus en Belgique et en France, leur pays n'avait pas été envahi, qu'ils n'avaient pas perdu la guerre. Ouais. Hitler, qui l'a participé, qui était gazé à la fin de la guerre, le dit clairement, l'Allemagne a été trahie par les élites, le diktat de Versailles et autres, et on a créé les germes de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler va en faire des choux gras, évidemment, dans ses campagnes électorales.
C'est important. J'invite les gens à surveiller ça sur RDI, ce documentaire-là, qui est très bien fait.
Oui, la série Apocalypse, il y a eu Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, et là, c'est l'entre-deux-guerres.
Je me souviens pas du nom du réalisateur, mais c'est un très bon documentaire.
C'est Coustel, ouais. Principalement, mais c'est très bien fait.
C'est important de se souvenir pour mieux affronter l'avenir.
Oui, parce que sinon, on recommence les mêmes erreurs.
Exactement. Merci, Hubert.
Ça fait
on
plaisir.
On commettra pas d'erreur en te rappelant à l'occasion pour,
ça sera toujours un
pour
plaisir.
La scène internationale. On fait une pause, et de l'autre côté, même si on se souvient, des fois on veut oublier se taper un bon petit verre de gin. On va en parler avec notre prochain invité, Fernando Baltazar des Subversifs est avec nous.